Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Aujourd'hui, l'ubérisation. Pourquoi l'ubérisation? Eh bien, parce que tous nos politiques, nos médias et leurs sbires nous disent chaque jour que l'avenir de la jeunesse tient dans cette idée simple et géniale, le travail à la pièce. Vous ne serez plus des salariés, vous serez vos propres patrons, comme si le capitalisme reposait sur une simple forme juridique. Mais je laisse la parole à Thomas, qui bien mieux que moi saura vous parler de ce problème de l'ubérisation.
Oui, alors le phénomène de l'ubérisation, ce qu'on appelle ubérisation aujourd'hui, renoue en réalité avec ce qu'on appelait au XIXe siècle le travail aux pièces, c'est-à-dire que au lieu d'être salarié dans une entreprise, on est considéré comme un travailleur indépendant, et donc la relation entre celui qui travaille et celui qui achète son travail n'est plus une relation de patron à salarié, mais elle est présentée comme une relation d'égo à égo sur le plan juridique, hein, c'est-à-dire que je suis un chef d'entreprise et je m'adresse à un autre chef d'entreprise qui veut m'acheter mes produits. Alors la différence fondamentale avec le salariat, c'est que dans le salariat, le patron vous achète ou vous loue votre force de travail pour un temps déterminé, alors que dans le travail aux pièces, il vous achète le résultat de votre travail. C'est-à-dire ce que vous avez produit, vous achetez un produit. Donc c'est vrai que juridiquement, vous vous retrouvez chef d'entreprise, vous produisez quelque chose et votre marchandise, une fois produite, vous essayez de la vendre sur un marché. Donc sur le plan juridique, on a l'impression qu'on traite d'égal à égal. En réalité, évidemment, il est évident que ce n'est pas le cas puisque le travailleur, entre guillemets, ubérisé, qui vend son produit, en réalité n'a qu'un seul client, et se trouve en concurrence avec une quantité d'autres producteurs qui font la même chose que lui. Donc en fait, il est dans une position économique très inférieure, une position de faiblesse, dans laquelle il n'a, lui, aucune puissance économique pour, par exemple, décider de ne plus vendre son produit pendant plusieurs mois, comme pourrait le faire un acteur économique un peu puissant qui ne trouve plus de bonnes conditions sur un certain marché. Il peut décider d'abandonner ce marché. Évidemment, le travailleur ubérisé n'a pas du tout cette possibilité-là. Et puis, tout simplement, parce qu'en fait, en face de lui, il n'a qu'un seul client. Donc, en fait, le client, entre guillemets, décide de tout et impose ses conditions de manière totalement contraignante. Donc, en réalité, le travailleur qui a l'impression d'être devenu son propre patron n'est qu'un employé qui n'a pas le choix, en fait, qui reste sous la contrainte comme s'il était salarié, mais à la différence du salarié, il ne jouit plus d'aucune contrepartie, c'est-à-dire que, bon, quand même, quand on est salarié, on signe un contrat avec un patron qui prend un certain nombre d'engagements. Donc ça, c'est un des aspects qui disparaît dans l'ubérisation, c'est-à-dire que le patron n'a plus aucun engagement à votre égard. On le voit avec les travailleurs ubérisés, par exemple, sur le licenciement. Hein. On ne licencie pas un travailleur ubérisé, on lui envoie juste un SMS en lui disant qu'il est déconnecté, puis c'est tout. Et puis, il y a évidemment la question des intérêts collectifs, hein, c'est-à-dire que quand vous êtes salarié, vous avez le même contrat de travail que tous les autres salariés, vous pouvez vous organiser en syndicat, etc. Alors que quand vous êtes ubérisé, vous n'avez pas des intérêts communs avec les autres salariés, mais au contraire, vous êtes en concurrence avec eux. Donc, évidemment, vous n'allez pas vous organiser, c'est beaucoup plus difficile en tout cas de s'organiser de manière solidaire avec les autres. Donc voilà, c'est vraiment le même schéma, en fait, hein, de l'ubérisation que le travail aux pièces au XIXe siècle.
Merci beaucoup, Thomas, pour ces explications. Un petit intermède parodique avec les goguettes qui, dans en raison d'un mouvement social, évoque la joie de l'Uber. Je vous recommande chaleureusement cet excellent groupe.
Ces nantis qui roulent jour et nuit, qu'on déprime charbon à ce qu'on dit, qui partent à 30 ans à la retraite, non mais ils vivent sur quelle planète?
On a changé de monde, ma parole, faudrait prévenir les syndicats.
Aussi moi j'en ai ras le bol d'entendre sur le quai cette voix qui répète des milliers de fois.
Pas de rame, pas de rame, pas de rame,
en raison d'un mouvement social.
Pas de rame, pas de rame, pas de rame,
et pas de retour à la normale.
Pas de rame, pas de rame, pas de rame,
à vivement qu'on transforme ces vandales en auto-entrepreneurs, au moins ils seront à l'heure
quand ils bosseront pour Uber.
Ils sont si feignants tous ces pitres qu'ils travaillent le jour de Noël juste pour ne pas ouvrir les huîtres et éviter de faire la vaisselle.
Franchement, si c'est pas une vie de rêve, bosser 35 heures mais par mois, être payé double quand ils font grève,
et en plus à la galette des rois, c'est toujours eux qu'on la fait.
Pas de rame, pas de rame, pas de rame,
je me suis totalement embrouillé.
Pas de rame, pas de rame, pas de rame,
je pensais qu'aujourd'hui ils travaillaient.
Pas de rame, pas de rame, pas de rame,
je comprends rien à leur calendrier.
Après 2 jours de grève, ils prennent 3 jours de repos,
et le week-end ils nous mènent en bateau.
Pas de rame, pas de rame, pas de rame.
Ainsi, l'Uber de 2022 serait l'équivalent de ce que l'on appelait les petits métiers. Mais que désigne-t-on exactement sous ce terme? En 1839, Jules Janin, le célèbre critique et le romancier reconnu, écrit dans son livre « Les catacombes » tout un chapitre sur ces petits métiers qui foisonnaient à Paris. Voici son témoignage. Voyez-vous, le petit métier domine dans cette grande cité. Il en coûte si cher pour acheter une charge, même d'huissier-priseur. Il faut tant d'argent pour ouvrir la plus petite boutique, dans un temps où il n'y a pas de boutique sans glace contre le mur et sans acajou au comptoir. Les propriétaires de Paris sont si durs, le papier est si difficile à escompter. Cependant, il faut vivre, il faut échapper au désordre et à l'hôpital. Vive donc le petit métier, sans boutique, sans patente, sans propriétaire, sans lettre de change, sans profit. Le petit métier au plein air, à pied, les mains dans les poches, la hotte sur le dos, ou mollement étendu au coin de la rue sur les crochets du commissionnaire attendant un chaland qui va venir. Voilà un texte très clair. Être marchand ambulant pour pouvoir vivre sans avoir à donner à l'État ou à un propriétaire. Ces marchands ambulants devaient se faire entendre. Et pour se faire entendre, ils n'ont que leurs cris, ces fameux cris des rues dont la tradition remonte à l'Antiquité. À mon âge, j'en ai encore entendu. Le vitrier, par exemple, ou le rémouleur, et même les peaux de lapin. Dans ma rue, qui était très commerçante, le primeur avait gardé l'habitude, qui venait d'une tradition des Halles, de vanter ses denrées en s'époumonant. Ainsi, aux heures où tout le monde allait faire ses courses, on pouvait entendre depuis mon appartement « Elle est belle! Elle est belle, ma romaine !» Cette tradition a inspiré les poètes, les chroniqueurs, les historiens et même les musiciens. D'ailleurs, voici les cris de Paris de Clément Jeannequin. Une chanson écrite entre 1485 et 1558. On disait alors, comme on dit assez régulièrement encore, les cris de Paris, mais il faut savoir que dans toutes les grandes villes, il y avait ces cris que chantaient, en quelque sorte, les marchands ambulants. Voici donc « Voulez-vous ouïr les cris de Paris ?»
Chandelle, zirpe, j'allais
Après ce texte du XVIe siècle, voici un extrait des Crieries de Paris, un texte écrit par Guillaume de Villeneuve aux environs de 1265. Oisons, pigeons, viande salée, viande fraîche et appétissante, sauce à l'ail ou au miel, Dieu nous donne santé, pois chauds en purée, fèves chaudes, j'ai des merlans frais et salés, j'ai des bons fromages de champagne et de brie, n'oubliez pas mon beurre frais, et le répertoire serait long. C'était juste pour vous donner une idée de tous ces cris que l'on entendait dans Paris, et cela depuis le Moyen-Âge. Ces cris étaient pour les marchands ambulants, ou vendeurs des rues, comme on veut, une manière de publicité, se faire entendre pour se faire voir. Louis-Sébastien Mercier, qui a laissé le tableau de Paris, écrit entre 1781 et 1788, nous laisse un petit chapitre sur les cris de Paris. Non, il n'y a point de ville au monde où les crieurs et les crieuses des rues aient une voix plus aigre et plus perçante. Il faut les entendre élancer leur voix par-dessus les toits. Leur gosier surmonte le bruit et le tapage des carrefours. Il est impossible à l'étranger de pouvoir comprendre la chose. Le Parisien lui-même ne le distingue jamais que par routine. Le porteur d'eau, la crieuse de vieux chapeaux, le marchand de ferraille, de peau de lapin, la vendeuse de marais, c'est à qui chantera sa marchandise sur un mode haut et déchirant. Tous ces cris discordants forment un ensemble dont on n'a point idée lorsque l'on n'a point entendu. L'idiome de ces crieurs ambulants est tel qu'il faut en faire une étude pour bien distinguer ce qu'il signifie. Les servantes ont l'oreille beaucoup plus exercée que l'académicien. Elles descendent l'escalier pour le dîner de l'académicien, parce qu'elles savent distinguer du quatrième étage et d'un bout de la rue à l'autre si l'on crie des maquereaux ou des harengs frais, des laitues ou des betteraves. Comme les finales sont à peu près du même ton, il n'y a que l'usage qui enseigne aux doctes servantes à ne point se tromper, et c'est une inexplicable cacophonie pour tout autre. Cette cacophonie inspira sous le Second Empire des compositeurs comme Kästner ou Offenbach. Kästner a écrit les Cris de Paris, malheureusement on ne trouve pas d'enregistrement. En revanche, en 1858, c'est-à-dire un an après Kästner, Offenbach composa « Mesdames des Halles » dont voici l'ouverture.
Yeah.
métiers se divisaient en plusieurs branches. Les vendeurs ambulants, les marchandes de quatre saisons, les excentriques, les charlatans, les chiffonniers, auxquels je consacrerai une émission, les chanteurs des rues, qui, eux aussi, méritent une émission complète, les petits métiers en chambre, les métiers baroques, comme les nommait Ernest d'Hervilly, les petits métiers, qui devinrent pour certains des industries du macadam et dont les heureux créateurs firent fortune, les petits métiers qui se développaient aux halles, les camelots, etc. Eh bien, commençons donc avec les marchands ambulants ou petits marchands. Voici la définition qu'en donne le journaliste et chancelier Élie Frébeau, 1827-1911, en 1868. On entend généralement par petit marchand celui qui promène sa marchandise dans les rues de Paris et exerce le commerce en plein air avec l'autorisation de la préfecture. Tout petit marchand, muni de sa médaille, doit l'exhiber à première réquisition d'un agent, sous peine de se voir déclarer séance tenante en contravention. Et dans Paris gagne petit, un ouvrage collectif qui date de 1854, l'on trouve un très beau texte sur le petit métier. Comptez les petits métiers qui pullulent dans la grande ville, autant on voudrait énumérer les sables de la mer. Le petit métier commence partout et ne s'arrête nulle part. C'est lui qui crie sous vos fenêtres, qui marche à vos côtés dans la rue. Le petit métier vous tend la main quelquefois. Il vous offrira des allumettes et il ajoutera en nasillant et d'un ton pleurard : cet enfant, pas de pain à la maison, il me manque 20 sous pour payer le loyer. Mais enfin, il est classé, il a sa plaque, cette patente du gagne-petit, qu'il vende des cigarettes de camphre, du sucre d'orge ou même que le petit métier ne vende rien du tout. Ne vous hâtez pas trop de le mépriser. Être marchand des rues demandait de posséder une voix de stentor. Mais cela ne suffisait pas à tenir la distance. Aussi existait-il, au Halles, le ventre de Paris, une école d'intonation. Et voici ce qu'en écrit Emmanuel Bénézit à la fin du XIXe siècle. « Ne croyez pas qu'on puisse sans étude crier toute la journée « à la douce cerise, à la douce !» ou bien « l'arrêt arrive tout en vie, sardine de Nantes, sardine nouvelle !» ou les multiples appels à la clientèle que les marchands jettent à pleine voix pour annoncer leurs marchandises. Les cordes vocales les plus solides n'y résisteraient pas, et le crieur serait bientôt à faune. En réalité, ce sont des chants rudimentaires que nous font entendre les gagne-petits. Moyennant quelques sous, l'apprenti crieur reçoit les leçons d'un praticien expert. Et pourvu qu'il ait de bons poumons, son éducation musicale ne tarde pas à être faite. L'un des premiers cris de ces industriels nomades, ainsi que les surnomme Victor Fournel, cet écrivain érudit, né en 1829 et décédé en 1894, est celui du marchand d'eau-de-vie. Et voici ce qu'il écrit dans les cris et les petits métiers de la rue. Il n'est que 4 heures du matin, l'aube ne paraît pas encore au bord le plus lointain de l'horizon, et déjà on entend de toutes parts le cri ou la chanson enjolivée de plaisantes fioritures par le marchand. Eau de vie, brand de vin et la dragée au bout. La vie, à un sou le petit verre, à la bonne eau de vie pour réjouir le cœur, à mon petit cabaret, à mon petit bouchon. Leur voix devançant le chant du coq et le clairon qui réveille tous les habitants du quartier. Les uns vont de porte en porte offrir leurs services et chercher les clients à domicile, mais le plus grand nombre dressent leur table dans un carrefour, sur une place, au coin de quelques rues fréquentées, avec la fontaine, les tasses et les flacons d'étain, la lanterne qui les éclaire et l'auvent portatif élevé autour de la petite boutique pour garantir la marchandise et le marchand. La table est souvent décorée avec art et même avec un certain luxe. On n'y boit pas seulement de l'eau de vie, mais d'agréables liqueurs de tout genre. Pour couronner tant de jouissances, on y trouve même au besoin les plaisirs du jeu et l'on peut engager avec le marchand une partie de cartes ou de dés sur la nappe. Le menu peuple formait la principale, mais non la seule clientèle de ces débits de la rue. L'ouvrier, en gagnant le lieu de son travail, passait à la boutique en plein vent comme il entre aujourd'hui chez le marchand de vin. Les paysans des environs, en se rendant à la halle pour y porter l'énorme provision de légumes, d'œufs, de fruits et de fleurs qui allaient se vendre à la criée au milieu d'un tumulte infernal, tandis que le reste de la ville demeurait plongé dans le sommeil et le silence, se réchauffaient d'un petit verre au passage. Les clients les plus délicats et les plus riches y joignaient quelques fruits confits avec la dragée au bout. On remarque que Victor Fournel parle de ce métier au passé. En effet, la fin du XIXe siècle avec ses marchands de vin a mis fin à cette pratique. Venait avec le marchand d'eau de vie le crieur d'huîtres à l'écaille ou écaillé. Un métier qui a très vite évolué car l'huître fut un mets très apprécié dès l'Antiquité et au Moyen-Âge, on connaissait déjà le couteau spécial pour les ouvrir. Le nom d'écaillé vient de sa spécialité, à savoir vendre des huîtres de barque, c'est-à-dire arrivant par bateau sur la Seine et conservant leurs coquilles, en opposition aux huîtres huîtrées, c'est-à-dire débarrassées de leurs coquilles, et donc moins volumineuses, ce qui facilitait le transport. D'après les livres de recettes, les huîtres se consommaient surtout décoquillées et cuites avant le XVIIIe siècle, siècle qui mit à la mode l'écaillère, très en vogue, ce que Rétif de la Bretonne en fit une nouvelle, la jolie écaillère. Cette mode perdura jusqu'au début du XIXe siècle. Vint ensuite la mode de l'huître ambulante, ainsi qu'on le voit dans Paris gagne petit, dont voici un extrait. Le marchand d'huîtres ambulant représente un progrès notable sur l'antique écaillère, inévitablement chevillée à la porte du cabaret ou du restaurant, avec son magnifique bonnet de dentelle, ses boucles d'oreilles monumentales, juchées sur sa chaise à sabots, comme une princesse indienne sur son trône à plumes. Aujourd'hui, l'huître voyage. Elle éprouve le besoin d'aller chercher le consommateur chez lui. Vous le connaissez, cet industriel ombragé d'un immense chapeau de paille qui pousse au milieu des voitures et des omnibus sa petite charrette encombrée de cloyères entassées en forme de pyramide. Le marchand d'huîtres ambulant vous vend des huîtres depuis 5 et 6 sous jusqu'à 12 et 15 sous la douzaine. Il débite l'huître plébéienne et l'huître aristocratique, celle qui s'adresse à l'hôtel où siège le consommateur millionnaire qui n'a plus d'estomac, et celle qui monte jusqu'à la mansarde où tout ce qu'on mange paraît délicieux, exquis. Un petit intermède avec une fable de La Fontaine, L'huître et les plaideurs, dites par Jean-Pierre Arbon.
Un jour, deux pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter. Ils l'avalent des yeux, du doigt ils se la montrent. À l'égard de la dent, il fallut contester. L'un se baissait déjà pour ramasser la proie, l'autre le pousse et dit « Il est bon de savoir qui de nous en aura la joie. Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur, l'autre le verra faire. » Si par là l'on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci. Je ne l'ai pas mauvais aussi, dit l'autre, et je l'ai vu avant vous, sur ma vie. Eh bien, vous l'avez vu, et moi je l'ai senti. Pendant tout ce bel incident, Perrin Dandin arrive, ils le prennent pour juge. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître, et la gruge, nos deux messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un ton de président, « Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille sans dépens, et qu'en paix chacun chez soi s'en aille. » Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui, comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles. Vous verrez que Perrin tire l'argent à lui et ne laisse au plaideur que le sac et les quilles.
Parmi les cris du matin, il y avait celui de la laitière. On les voyait arriver à peu près en même temps que les boulangers de Gonesse, le vase sur la tête et le pot à la main. Assises sous les portes cochères et installées aux angles des rues comme à présent, elles faisaient retentir l'air de leurs voix perçantes. « Ah, mon beau lait chaud ! Qui veut du bon lait ? La laitière ! Allons, vite ! Ça ! Tôt le pot, nourrice !» C'était le moment où Paris se levait, où les ménagères apparaissaient sur le seuil, où les rues commençaient à se remplir. Écrivait Victor Fournel en 1879. La laitière venait des villages des alentours de Paris. Elle vendait du lait de vache, mais au XIXe siècle, le lait de chèvre et celui d'ânesse étaient recherchés pour leurs vertus curatives. C'est pourquoi l'on voyait dans Paris des chevriers et des âniers, ainsi que l'écrit en 1890, dans Paris qui crie, une œuvre collective, Eugène Payet. Ce chevrier n'a rien de commun avec celui du Val d'Andorre. Il ne vient pas de si loin, il n'est pas si vieux. Et s'il était sorcier, cela m'étonnerait beaucoup. Le voyez-vous au milieu de ses chèvres au poil brun, à la carcasse anguleuse, à l'œil curieux et lascif? Elles mettent volontiers les cornes en avant quand on les veut traire. Si l'on me demande quelle est la propriété du lait de chèvre, je répondrai que c'est de coûter meilleur marché que le lait de vache à la campagne, et plus cher à Paris. Pourquoi ? Je n'en sais rien. D'ailleurs, connaissez-vous quelqu'un qui en boive, du lait de chèvre ? Moi, je ne connais personne, mais beaucoup de gens doivent se désaltérer ainsi, car le nombre de ces animaux augmente dans Paris. Le chevrier a dû quitter les hauteurs et les solitudes de Montmartre pour conduire lui-même ses élèves dans nos rues. Et ensuite, il parle des ânesses. Autrefois, les ânesses à cloche remorquaient à peine un cabri solitaire. À cette heure, les ânesses ont presque disparu pour faire place au troupeau bêlant que vous savez. Et Élie Frébeau, en 1878, décrivait dans la vie de Paris les âniers. Presque en même temps, j'entends le son des clochettes qui m'annonce le pasteur de lait d'ânesse qui trottine derrière ses quadrupèdes au pas gymnastique avec son grand fouet. Quelles jambes et quels poumons ! De l'aube au crépuscule, il parcourt la ville avec son troupeau sans avoir l'air de se fatiguer. Mais revenons à nos laitières avec le journaliste et écrivain Adrien Marx qui a laissé sur Paris et les personnalités de son époque, des textes qui mériteraient d'être réédités. Dans les Petits Mémoires de Paris, il écrivait en 1888 un texte sur les laitières. Depuis quelques années, le lait est devenu à la mode. Les étables, ouvertes au public, aux jardins d'acclimatation, dans les expositions et les comices agricoles, ont peut-être éveillé et propagé ce goût. Quoi qu'il en soit, on a été pris de lactomanie avec un engouement de nourrissons. Les kiosques des squares ont tous subitement vendu du lait. Ajoutez que les médecins se sont mis de la partie en préconisant le régime lacté et en l'appliquant à toutes les maladies. Avant que le client ait ouvert la bouche pour expliquer son cas, le docteur lui dit « Buvez du lait ». Qu'il s'agisse d'entorses ou de maladies de cœur, de rhumes de cerveau ou d'inflammation intestinale, sa prescription ne varie guère. Buvez du lait est son refrain, son motif favori, comme disent les mélomanes. Il est naturellement advenu que la fraude s'est ingéniée à établir une balance entre la pénurie des sources et l'affluence des buveurs. Et notre capitale a été envahie par une incalculable quantité de dépôts de prétendues fermes où l'on débite dans des récipients de verre, bien et dûment cachetés, un liquide épais et crémeux d'apparence absolument honnête. Ce liquide est dans certaines boutiques obtenu par l'union coupable de la farine de riz avec de la cervelle de cheval et de l'eau légèrement sucrée. Mieux vaut 100 fois que cette bouillie sans caséine, l'ancien lait, généreusement baptisé, qu'on trouvait sous les portes cochères. Ses vertus nutritives étaient médiocres, mais il ne déterminait pas les coliques attribuées naïvement à de mauvaises dispositions ou à des influences atmosphériques. La disette du lait a engendré la disette du beurre, c'était écrit. Je voudrais terminer cette première émission sur les petits métiers par deux marchands symboliques des gagne-petits, le marchand de coco et la marchande de plaisir. Le marchand de coco était déjà très en vogue au XVIIe siècle. Et voici ce qu'écrit l'érudit Victor Fournel à son propos dans les Cris de Paris. Le vendeur de tisane était l'antithèse du marchand d'eau-de-vie. La tisane ne doit pas tout à fait se confondre avec cette fade boisson médicinale qui n'eût fait fortune en aucun temps dans les rues de Paris. C'était à peu près ce qu'est aujourd'hui le coco, cher aux gamins. Une eau de réglisse légèrement sucrée et aromatisée à la portée des bourses les plus médiocres. Le marchand, la fontaine sur le dos, souvent tout enguirlandé et empanaché, le bonnet garni de plaques et de plumes de héron, ceint d'un tablier blanc, avec deux gobelets attachés à sa ceinture, parcourait les divers quartiers en criant « À la fraîche, à la fraîche! Qui veut boire deux coups pour un liard ?» Et 200 ans plus tard, le marchand de coco était toujours aussi important, ainsi que l'écrit Delors dans les gagne-petits. Tin, tin, tin! Que cette harmonie est douce à l'oreille de l'invalide, qui par un jour d'été traverse le champ de Mars au milieu d'un nuage de poussière, au terrassier courbé sur la tranchée ou poussant la brouette chargée de sable, au maçon qui charrie la pierre, étend la chaux et le mortier, décharge le plâtre, âcre et suffocant, au tailleur de pierre courbé sur son blanc. Le marchand de coco est la providence de tous ceux qui travaillent. Il étanche la soif du pauvre, il égaie la journée de l'ouvrier. Le coco est une boisson essentiellement française. On ne la trouve ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni en Espagne, ni en Italie, ni en Amérique. Ce sont les Gaulois qui ont inventé le coco. Le marchand de coco parcourt toutes les rues et tous les ateliers et chantiers de la ville de Paris. Il entre dans l'imprimerie, il entre dans la manufacture, il entre dans l'usine et partout il apporte la joie, la fraîcheur et la santé. Il n'y a pas de petite bourse pour le marchand de coco. Il en donne pour un sou, il en donne pour un liard, il en donne pour un centime, il en donne pour rien. Car le marchand de coco a l'âme sensible et ne sait rien refuser à l'enfance qui sourit ou à la vieillesse indigente. On s'est souvent demandé ce que faisait le marchand de coco pendant l'hiver. Émigre-t-il ou reste-t-il à Paris? Vit-il des économies faites pendant l'été? Ou exerce-t-il une autre industrie? On n'a jamais pu le savoir. La marchande de plaisir est la descendante du marchand d'oubli du Moyen-Âge. Les oublis étaient une pâtisserie légère obtenue avec une pâte mêlée à du sucre. Elles étaient cuites en fin de journée et laissées aux garçons pâtissiers qui les proposaient donc le soir. Je terminerai donc avec deux textes sur les marchandes de plaisir, deux textes très différents l'un de l'autre. Le premier, c'est dans Paris gagne petit. Le voici. Voici le plaisir, mesdames. Achetez du plaisir. Voilà encore une industrie qui peut se vanter de remonter au premier temps de la monarchie française. Les pasticiers aux Bléières formaient une corporation puissante avant Saint-Louis qui révisa les statuts de tous les corps de métier. Or, l'oubli et le plaisir sont un seul et même produit sous des noms différents. Autrefois, on appelait oubli ce que vous nommez plaisir. Aujourd'hui, on nomme plaisir ce que l'on appelait oubli. Cette industrie autrefois florissante diminue chaque jour. Le plaisir n'a plus que quelques rares adeptes. Les enfants semblent s'éloigner chaque année davantage de ces simples et innocents produits dont leur gourmandise se contentait autrefois. En 1903, Emmanuel Benesi, dans Petits métiers et petites industries, écrivait à propos du marchand de plaisir. Un autre gagne-petit qui fréquemment voisine avec le glacier ambulant, c'est le marchand de plaisir. Leurs marchandises se marient fort bien, les oublis étaient fort agréables à manger avec les glaces. Mais le type de ces derniers marchands est très différent des glaciers italiens. Le marchand de plaisir est français. 9 fois sur 10, c'est un déclassé. C'est du reste un sceptique qui, à l'occasion, fera des remarques ironiques ou teintées d'amertume. Cela tient-il à son refrain ? Voilà le plaisir, mesdames, voilà le plaisir. N'en mangez pas, mesdames, ça fait mourir. Souligné par un accompagnement de sa claquette. Souvent, le marchand de plaisir a l'esprit vagabond. L'amour des voyages le hante. Il fréquente les fêtes foraines. Puis, quand la saison de celle-ci est passée, il va de village en village faisant résonner sa claquette après l'heure de la sortie des classes. Il y a beaucoup du trimardeur dans ce gagne-petit-là. D'autres auteurs évoquent ce petit métier. Mais il est temps de nous quitter. Si vous avez envie de suivre mon blog, n'hésitez pas. Rendez-vous sur chroniquesd'unsiècle.com ou même sur ma page Facebook Chroniques d'un siècle. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier. Sur Radio Boomerang 89.7 FM.